Afrique. Nous sommes en compagnie de Michel Odetta du Matin Dimanche, Geneviève Bridel de la RTS, Isabelle Ruff du quotidien Le Temps et bien sûr de Jean-Michel Meyer. Après Les coqs cubains chantent à minuit de Tierno Monenembo et Perversion de Yuri Andrukovitch, voici Mer Noire de Dove Lynch. Alors un livre aussi épuré que Perversion et foisonnant et compliqué. Mer Noire, paru aux éditions Anacharsis, est le premier roman de Dove Lynch, diplomate et essayiste irlandais qui vit à Paris et qui a écrit ce récit directement en français. L'Irlande est cependant présente dans le roman car le héros Dimitri, on dit Dimitri, Dimitris, est un ancien de l'IRA qui s'oppose à la présence britannique en Irlande du Nord. Nous sommes dans les années 90. Le récit, traversé par la violence, traversé aussi par la mort, s'ouvre sur celle du père de Dimitri, ancien homme fort de l'IRA. Nico, le fils aîné, lui, a fui le pays après avoir tué un officier supérieur de l'armée républicaine irlandaise. Quant à Dimitri, eh bien, il a quitté l'IRA après 9 ans de service et il se retrouve seul. Il va tuer un homme également et ce ne sera pas le dernier. Il décide de partir à la recherche de son frère pour lui annoncer la mort de son père et lui annoncer par la même occasion que Nico hérite de la ferme parce que Dimitri, le fils cadet, n'a rien. Mer Noire, j'espère que vous y avez compris quelque chose. Je dis que c'est épuré et je m'embrouille. Allez, Mer Noire raconte donc le périple de Dimitri à travers la France et l'Europe centrale jusqu'à Soukhomi. On nous en demande beaucoup en matière de géographie hein, depuis un moment. Soukhomi, ville d'Abkhazie sur la Mer Noire, terre d'origine de la mer où les séparatistes se battent contre l'armée géorgienne. Le voyage est rude et surtout dangereux. Arrivé à Soukhomi, Dimitri erre dans les rues de la ville meurtrie. Il songe à s'en échapper, mais il est rattrapé par la violence.
En fin de matinée, Dimitri quitta la maison, traversa la rue et marcha rapidement jusqu'au bout de la jetée. Le bateau était ancré plus loin qu'il l'avait pensé dans la baie, trop loin pour le rejoindre à la nage. Puis comment grimperait-il à bord? Il ne voyait pas d'échelle. Il revint sur le bord de mer et prit une rue qui partait vers les hauteurs de la ville. La rue était encombrée d'objets abandonnés, comme si un déménagement avait été interrompu en plein milieu. Une armoire était couchée sur le dos, il y avait des tables, des chaises sur la chaussée, des valises éventrées. Le goudron était constellé de vaisselle cassée. Il s'arrêta devant une maison dont la porte d'entrée était entrouverte et attendit un moment devant le portail. Il n'entendit rien et entra dans la maison. Les volets étaient fermés dans le salon. Le couloir menait vers la cuisine à l'arrière. Il y trouva un paquet de biscuits au fond du meuble sous l'évier, des biscuits secs qu'il mangea dans le couloir près de la porte d'entrée, guettant la rue devant la maison. Quand il revint à la cuisine pour boire de l'eau au robinet, une vague fatigue le submergea et il resta un moment accroupi contre le mur avec la tête dans les mains et les yeux fermés. La maison, la ville, tout était suspendu au silence. Il avança d'une maison à l'autre, lentement, s'arrêtant tous les 10 mètres pour écouter et guetter tout mouvement. Un air de musique le surprit plus loin dans la rue. Elle venait d'une radio par une fenêtre ouverte. Sans réfléchir, il commença à courir. Il entra dans un jardin public, courut sur un chemin en gravier et tomba à la sortie du jardin sur une place où un groupe de soldats pillait un grand immeuble d'allure officielle. Une fumée noire s'échappait des fenêtres au dernier étage du bâtiment. 2 soldats le virent, crièrent et coururent vers lui. Il n'eut pas le temps de réagir, les soldats l'attrapèrent, le frappèrent et le jetèrent au sol. Il se roula en boule tandis qu'il lui assénait des coups de pied. Les soldats le prirent par les bras et le traînèrent tout en le frappant au visage et dans les côtes. Il se débattit encore, puis un coup au visage arrêta tout. Quand il revint à lui, il était assis sur une chaise, les bras attachés dans le dos. Sa tête semblait encombrée par un poids au niveau de la nuque. Il avait mal aux côtes sur la partie droite de son buste et son visage était enflé, la peau tirée douloureusement sur les os. Les yeux fermés, il se souvint de l'interrogatoire qu'il avait subi aux mains des Anglais et résista à l'envie de les ouvrir.
Mer Noire de Dove Lynch, ou l'errance de Dimitri, d'une guerre à l'autre, de l'Irlande à l'Abkhazie. Isabelle Ruff, ce premier roman fait-il mouche ?
Ah, moi, j'étais très impressionnée. Je dirais que c'est un peu le contraire de Landrokovitch. Il y a une telle sobriété dans la forme de ce livre, une telle distance aussi par rapport aux guerres qu'il traverse et à l'horreur finalement de ce qu'il raconte, que ça, je me suis d'ailleurs posé la question si le fait que Dov Lynch écrive directement en français ne lui permettait pas d'avoir une langue aussi dépouillée, aussi dépourvu d'affect. Ça m'a fait penser, c'est pas du tout la même chose, mais ça m'a fait penser à Gotha Christophe.
Ah, j'aurais dit Beckett, tiens. Un Irlandais qui écrit en français de façon dépouillée,
oui,
c'est quand même un peu Beckett.
Mais c'est pas Beckettien. Oui.
Non,
on peut pas dire. C'est d'un réalisme très très sobre. Je trouve que c'est un livre glaçant, à part. C'est un livre sur la solitude. Et jamais, par exemple, il ne dit jamais ce que ressent ce personnage. Jamais il n'entend sa psyché. Ce type tue. Quand il faut, ou quand il croit qu'il faut.
Sans état d'âme.
Sans aucun scrupule.
On sait pas.
Enfin, on ne sait pas
ce qu'il a comme état d'âme. Tout ce qu'on apprendra un peu de sa psyché,
c'est pas tout à fait vrai.
Non,
on sait des choses à la fin du livre. Je suis tout à fait d'accord sur le fond de la remarque. On ne sait jamais ce qu'il ressent. On sait ce qu'il pense, son corps parle tout le temps. Il vomit, il a du sursaut.
Il est transpirant, il y a du sang.
Son ventre se noue, il a des bouffées de chaleur, etc. Mais à la fin, il éprouve de la colère à un moment. Contre le journaliste polonais qu'il rencontre. Il éprouve de la honte quand il quitte la femme qui s'appelle Stella, je crois qu'il l'a
qui a connu sa mère.
Un moment, ouais. Voilà. Et il y a comme ça une légère... il rentre à un moment donné dans le monde des sentiments.
On sait aussi que...
avec retenue, mais
il y a une scène où il a enterré son petit chat. Il évoque un moment, et c'est curieux parce que c'est juste après une scène de violence où il voit, sauf erreur, des morts, ou encore une où il est attaqué, et il se souvient, ou alors c'est pendant la traversée sur le bateau, il se souvient d'une scène où il a enterré son petit chat, dont son père lui avait dit de se débarrasser, et il est allé dans la forêt. Et là aussi, ça nous donne quelques rares indications sur ce qu'il éprouve.
Ou parfois, il sent un parfum qui lui rappelle quelque chose et il se dit que peut-être c'était sa mère.
Et ça, il le dit en trois mots, plus court que vous, généralement.
C'est ça, parce qu'il a une telle sobriété. Oui. Donc, on voit bien aux réactions de mes camarades et de moi-même qu'il y a une force d'évocation dans ce livre qui est énorme. Et toute la traversée, parce qu'il traverse de l'Irlande en Abkhazie, pas en train, en
bateau,
en ferry, oui. Dans des pensions minables.
Et le danger est partout.
Des trains de nuit, le danger est partout. Et en même temps, il y a quelque chose d'implacable dans ce trajet d'une guerre à l'autre. Et l'épisode avec le photographe polonais, d'ailleurs, un moment très intéressant, parce que ce jeune homme ne parle pas. Il dit rien, d'ailleurs, au polonais, à peu près.
Mais alors,
le polonais qui, par contre, il remplit les vides. Et je trouve que c'est un livre sur l'inutilité des guerres, comment dire. Tout recommence tout le temps. Et ça sert à rien.
Les mêmes causes, les mêmes effets, c'est vrai. Et les mêmes victimes.
Tous les deux, Geneviève et Michel.
Moi,
je sais pas s'il y a quelque chose.
J'étais juste très surprise du fait qu'on accroche à ces 100 et quelques pages, alors que finalement c'est juste une longue traversée de la guerre avec très peu d'indications précises et qu'on n'en saura pas beaucoup plus, ni sur ce qu'il cherchait, ni sur...
C'est la question, qu'est-ce qu'il cherche, Dimitri ?
Alors
une des réponses est lui-même, ou son frère. Oui, et encore, Michel Odetta.
Je ne sais pas, il y a de la solitude, mais en même temps, il y a de la gémellité d'une certaine manière. Le rapport aux frères est curieux. Ils ont fait partie de l'Irak, tous les deux. Il y a une forme de ces deux pays en guerre. Cela dit, sur le fond, je partage tout à fait l'avis.
Donc à lire.
Ah oui.
Surtout
après Andrukovic, on a l'impression vraiment de faire la planche sur cette mer Noire. C'est un repos.
Avec un livre glaçant et terrible. Et puis le langage du corps, vous le disiez, Michel Odetta.
Non, mais il y a une chose. Il y a quelque chose qui m'a rappelé Simenon, même si ça n'a rien à voir du tout. C'est une manière de créer des atmosphères en deux mots. avec une petite notation, le bruit du réfrigérateur après le meurtre, je trouve qu'on le retient comme ça. Il y a un art de l'atmosphère qui est absolument extraordinaire, avec une économie de moyens qui m'a épaté.
Une économie, mais aussi aucun souci, et ça c'est peut-être parce que c'est pas sa langue maternelle, le français, aucun souci d'éviter la répétition. Je crois qu'on lit 50 fois dans ce livre « Dimitri ne dit rien ». Ou ne répondit pas, ne dit rien. Ça y est, 50 fois, et même dans le passage que lisait Jean-Michel, il y a la répétition du mot « la rue » ou comme si c'était important de situer l'extérieur.
À lire, en tout cas, c'est sûr. « Mer noire » de Dove Lynch aux éditions Anacharsis. Pour terminer,